talmudique. Selon Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans chaque chose existent quatre niveaux d'interprétation. Le plus haut niveau n'est pas contemplatif mais engagement dans l'action. C'est le geste que nous faisons et sur lequel nous pouvons méditer ensuite. Comme le dit l'expression biblique « Naaseh v'nishma », nous ferons et nous entendrons, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons ensuite les harmoniques subtiles de nos gestes. Dès lors, il est intéressant de s'arrêter sur l'un des derniers gestes que nous avons fait il y a quelques semaines, celui d'allumer les bougies de Hanouka en une modalité surprenante, puisque cet allumage s'est fait en remontant le cours des jours. Ainsi, par exemple, le 8e, nous avons allumé les bougies 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comme si nous allumions les jours en les éclairant par un retour vers l'origine, le commencement, le début, le point de départ, les lieux d'enfance et les lieux de notre naissance. Comme si, peut-être, pour éclairer notre présent, il fallait aussi éclairer notre passé, ne pas l'oublier et le faire vivre en nous avec autant de clarté que la mémoire puisse nous offrir. Ni magie, ni nostalgie, mais construction de notre histoire, tissage du temps qui est la matière de la vie et la matière vivante de l'art, en particulier de la littérature. Oui, le temps est bien la matière première de l'écrivain qui, grâce entre autres à la grammaire, peut explorer le passé et le futur et, comme ses lumières de Hanouka, marcher à reculons. L'enfer n'est-il pas, comme le disait aussi Mandelstam cité par George Steiner, la conjugaison du verbe être privé du futur et nous pouvons ajouter privé du passé. Et si le contraire de l'enfer est le paradis, n'est-ce pas une expérience particulièrement jubilatoire et fondatrice de pouvoir voyager à rebours? C'est à quoi nous invite justement le roman de Jacob Gladstein, magnifiquement traduit par Rachel Hertel, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope sous le très beau titre « Voyage à rebours ». Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Carole Xianisser-Matron, professeur de littérature comparée émérite à Paris 3, et Gilles Rosier, écrivain, traducteur et éditeur, tous deux excellents connaisseurs de la littérature yiddish en général et de l'œuvre de Gladstein en particulier. Bonjour et bonjour. Bonne année.
Bonjour, bonne année.
Bonne année.
Carole Xianisser, Gilles Rosier, qui est Jacob Gladstein ou Yankov Gladstein, comme on dit en yiddish?
Alors, c'est l'un des plus grands poètes yiddish, hein, moderniste d'abord, puis poète national après la Shoah, qui élève sa voix au nom de tous pour déplorer la perte absolue. Il est né donc en Pologne, à Lublin, en août 96. À l'âge de 13 ans, il rencontre Peretz à Varsovie. Sa famille est à la fois éclairée et il bénéficie d'une éducation traditionnelle, puisqu'il y a tant du côté maternel que paternel des rabbins, des serviteurs du culte, des gens qui enseignent, et puis du côté du père, des artisans. Donc, il est amené par son père auprès de Peretz, qui est à ce moment-là la grande figure intellectuelle juive varsovienne. Et il émigre en 14, juste avant la guerre, aux États-Unis pour rejoindre le plus jeune frère de son père, donc un oncle déjà installé là-bas. Il s'intègre rapidement au contexte américain. En 1918, il commence des études de droit à l'université, après avoir suivi bien sûr tout le cursus des cours du soir pour acquérir l'anglais en particulier. Et là, il a la chance de rencontrer au cours de ses études Minkoff, qui est un autre poète apprenti, avocat ou juriste, et qui l'introduit au contexte littéraire yiddish de New York. Et il fait la connaissance d'un grand nombre de poètes qui, comme lui, ont émigré. Il rejoint un groupe moderniste qui succède à deux groupes antérieurs, les poètes prolétariens et les Junge, qui initient le modernisme yiddish aux États-Unis. Et il devient ainsi l'un des plus grands poètes modernistes de cette période. Je laisserai Gilles parler effectivement du groupe des Inziristen qu'il crée avec Minkoff et Aaron Glantz Leyeles. À ce moment-là, il a quitté le droit et il est journaliste, comme beaucoup d'autres auteurs yiddish. Il travaille pour, parfois sous pseudonyme, pour le Morgen Journal, qui est un quotidien d'obédience plutôt sioniste à New York. Ensuite, pour le Yiddisher Kämpfer. Et puis, il publie, bien sûr, aussi dans sa revue Inzir. Donc, le texte auquel nous avons affaire aujourd'hui se situe en 1934. Il rentre en Pologne pour la première fois depuis 20 ans au chevet de sa mère malade.
Plus précisément après. Donc, c'est un poète, c'est en même temps un romancier. Vous avez utilisé plusieurs fois le terme de moderniste qui questionne l'oreille. Et ses biographes insistent sur le fait qu'il faisait aussi partie du mouvement littéraire Inzir, un terme qui veut dire en yiddish « en soi », à l'intérieur de soi, un mouvement introspectionniste donc. Que signifie Gilles Rozier précisément ces termes et comment se caractérisent ces mouvements littéraires dans la sphère yiddish?
La modernité arrive à la fin 19e, début 20e siècle. Dans le cadre de la littérature yiddish, Carole a parlé des poètes prolétariens, donc effectivement aux États-Unis fin 19e, début 20e, on faisait de la poésie pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer une identité socialiste, prolétarienne, etc. Et au début du 20e arrive le premier mouvement moderniste des Jungais, qui prône une poésie de l'art pour l'art, un peu comme ça s'est fait en Europe à la même époque. Et Inzir, qui arrive à fin des années 10, début des années 20, le introspectionniste, Inzir ça veut dire en soi, ça veut dire qu'il prône que le poète voit le monde à travers ses propres yeux. C'est une vision du monde extrêmement subjective. Ce n'est pas une description comme un tableau qui serait le plus réaliste possible. Ça sort du réalisme pour introduire le subjectif. Et ce qu'on peut dire en plus sur Gladstein et sur Inzir, c'est que dans le cadre du yiddish en particulier, en yiddish il y a beaucoup de mots d'origine hébraïque qui en yiddish s'écrivent comme ils s'écrivent en hébreu, mais les introspectionnistes décident de les vocaliser et de les écrire de manière phonétique, comme pour prendre une distance par rapport à la tradition juive. Le paradoxe, c'est que c'est une poésie qui s'écrit en yiddish, donc pour des juifs, parce que à l'époque, il n'y a que des juifs qui parlent et qui lisent le yiddish, mais qui a une vocation universelle. Et ça, c'est très fort. Et les thématiques des poèmes de Gladstein de ces années-là, c'est des thématiques qui ne sont pas particulièrement juives. Plus tard, ce sera différent. Mais en tout cas, à cette époque, c'est vraiment l'idée d'un universel au sein de la littérature yiddish.
C'est un jeu formel aussi sur les sons. On parlera sans doute aussi de la musique chez Gladstein, mais dès ses premières tentatives poétiques, il y a à la fois une fragmentarité, des jeux de rythme, le vers libre, surtout l'usage du vers libre. Les Junge pratiquaient encore la ballade à l'allemande avec des assonances et des rimes régulières. Chez les introspectionnistes, c'est le vers libre qui domine très largement, et puis tout un jeu sur la réflexivité, l'ironie, le fragmentaire, et des influences qui viennent de l'imagisme anglo-américain. Pound, Eliot, bon, on peut même aller jusqu'à Joyce, hein, avec son jeu sur le langage permanent. Et ça caractérise vraiment Gladstein et les autres, hein, Aaron Glanzleyelus également.
Parlez-nous de ce voyage à rebours. C'est toute une génération qui peut se regarder dans le miroir de ce récit. C'est une vraie traversée de la première moitié du XXe siècle pour un grand nombre de juifs polonais, russes et d'Europe de l'Est, Gilles Rozier.
Bien, en général, les juifs faisaient le voyage unique du vieux continent jusqu'aux Amériques. Et Gladstein fait partie de ces rares personnes qui a fait le voyage à rebours, justement. Il apprend que sa mère est gravement malade et il souhaite aller lui rendre visite. Et donc, en 1934, il prend le bateau. Le texte, le récit se passe sur le transatlantique, puis dans le train entre Le Havre et Lublin, en Pologne, à travers Paris. Il fait escale à Paris, à travers l'Allemagne qui est nazie depuis un an, et jusqu'en Pologne qu'il a quittée alors qu'elle était une province de l'Empire tsariste et qu'elle est devenue une république indépendante. Et tout le récit est traversé par cette différence entre le monde qu'il a quitté et celui qu'il retrouve, avec la tension créée par l'avènement d'Hitler au pouvoir un an avant ce voyage, avec la création de l'Union soviétique sur des terres, enfin, non loin de là où il est né. Et c'est une galerie de portraits tout à fait extraordinaire de ce microcosme sur le transatlantique et dans le train, de gens qui ont essayé de faire fortune en Amérique du Nord ou du Sud, de gens qui vont soit retrouver leur famille en Europe orientale, soit essayer de construire le socialisme en Union soviétique. Enfin, c'est vraiment une galerie de portraits tout à fait saisissante. Et en même temps, un voyage vers l'enfance.
Un voyage vers l'enfance, on a l'impression que ce bateau est une sorte d'île au milieu de l'océan, avec des comportements d'une liberté qu'on oublie quand on se retrouve sur la terre ferme.
Je relisais les premières pages avant de venir et vraiment, enfin, on est tout de suite dans le récit. Il commence en disant « Je ne me rendais pas compte de ce qu'étaient les lois maritimes quand j'étais étudiant en droit, mais maintenant je comprends. » C'est-à-dire que tout de suite, il nous projette dans un monde qui n'est pas le monde que l'on connaît sur la terre ferme. Et c'est ça la magie de ce livre, c'est qu'on est tout de suite projeté là-dedans. Et il a une capacité à décrire les personnages et les situations qui est très saisissante.
Est-ce que c'est pas justement le rôle de la littérature en général de nous emmener dans un univers qui n'est pas le même que celui de la réalité que nous rencontrons, mais qui va nous permettre ensuite de regarder la réalité avec des yeux nouveaux, Carole Xanisser?
Oui, il ne faut pas oublier également que Gladstein est journaliste. Il y a toute une tradition de récits de voyages journalistiques. On peut la retrouver chez un Joseph Roth dans le contexte allemand, chez un Israël Joshua Singer dans le contexte yiddish. Et donc, c'est aussi l'œil de l'actualité, du journaliste attentif aux moindres détails qu'il va faire résonner de façon littérarisée et même peut-être sans doute fictionnalisée à travers le choix du titre Yash, hein, en yiddish. Wenn Yash is geforn, c'est-à-dire Yash, c'est une sorte de diminutif de son nom Yankev, de son prénom, un mélange d'acuité journalistique, voire satirique, qui campe des situations parlantes, d'autant plus parlantes d'ailleurs que les rencontres qu'il fait sont souvent caractérisées par leur langue immédiatement, c'est-à-dire la façon dont ils parlent anglais, qui mesure leur degré d'américanité, les accents qui subsistent, l'anglais parfois ébréché, rugueux, des Polonais ou des Russes, et puis bien sûr le côté aussi l'américain, celui qui jouit d'un statut dominant par rapport à ces émigrés plus ou moins récents qui tentent de faire oublier leur judéité. Donc il y a ce contexte aussi de l'identité juive qui est saisi par Gladstein de façon assez féroce, assez satirique. Il y a un regard non seulement de journaliste, mais également d'écrivain qui est sensible à la comédie humaine, à la comédie juive aussi, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le passing, c'est-à-dire tenter de dissimuler son origine, tenter de mettre un masque sur son propre accent. Donc toute cette attention au langage, à l'accent, à la prononciation, à la musique aussi, aux mots, caractérise, je dirais, le profil littéraire de Gladstein. Mais derrière, et vous le mentionnez à travers cette question, il y a bien sûr aussi tout le côté initiatique de ce voyage. Il n'était pas rare que les émigrants, malgré tout, reviennent au Shtetl, par exemple, pour dresser le monument funéraire de leurs parents. C'est un topos de la littérature yiddish. Mais là, il y a une saisie, presque un journal de bord, des sentiments qui, comme Gilles l'a mentionné, éclosent d'autant plus facilement que ce lieu du bateau est un lieu, un tiers-lieu, si vous voulez, hein, quelque chose, un lieu d'exceptionnalité où toutes les lois ordinaires sont abolies au profit précisément du plaisir d'une part, du plaisir de la traversée, parfois même du plaisir du flirt, hein, plaisir des conversations mondaines, etc., mais aussi de la réminiscence, du souvenir. Et donc ce voyage va être scandé par toute une série de flashs mémoriels qui va faire de ce moment, un sas, entre le moment où il part, écrivain yiddish américanisé, faisant partie d'un journal, d'une institution, d'un cercle, d'un cénacle littéraire, ayant son statut bien affirmé, et le moment où il va arriver en Pologne, où il va se retrouver le petit garçon, ce Pintele Yid, ce petit juif en calotte, qui se retrouve face aux forces de l'histoire, par exemple, errant seul lors d'un pogrom dans les rues de Lublin, et face à la peur juive. Et donc, c'est toute cette initiation à la mémoire noir qui caractérise ce volume, je dirais, de façon magistrale, donnant une autre facette de l'écriture de Gladstein, qui est beaucoup plus lyrique et voire dramatique.
Ce qui est remarquable dans ce roman, c'est la description et l'accent qui est mis sur les relations entre juifs et non-juifs de l'époque. On pense souvent, quand on est à l'extérieur de cette histoire, à un monde juif très fermé, ghettoisé. Là, on a l'impression qu'il y a un monde fortement ouvert, riche de mille ponts avec le monde non-juif. Gilles Rosier.
Alors, il faut voir une chose, c'est que bon, Gladstein a passé 18 ans en Pologne, et puis en 1934, quand il fait ce voyage, il vient de passer 20 ans aux États-Unis. Il a commencé des études de droit, il maîtrise bien l'anglais, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout resté uniquement dans les milieux juifs, même s'il était journaliste yiddish et écrivain yiddish. Il a eu des contacts avec de nombreuses personnes, et il s'intéresse au monde d'une façon générale. Et puis, en même temps, l'idée de dire que les juifs en Pologne étaient en circuit fermé, c'est tout à fait cliché, parce que ne serait-ce que les commerçants au marché, ils passèrent leur temps à commercer avec des paysans polonais qui venaient leur acheter des choses et leur vendre d'autres. Enfin, il y a toujours eu des allers-retours entre les sociétés.
Hein. Dans ce retour, dans ce voyage à rebours, ces voyages vers l'enfance, voyages vers le pays natal, on a l'impression que, bien qu'ils disent à plusieurs reprises « je suis un tzigane », comme s'il était toujours en voyage, il y a un fort attachement à sa ville de naissance, à Lublin, à Varsovie. On sent ici aussi que les Juifs, bien que immigrants et souvent en voyage, ont un fort attachement à leur lieu de vie et de naissance. Carole Xianisser.
Oui, il faut préciser que les deux volumes qui sont parus lors de la vie de Gladstein, Wenn Jasch ist geforen und Wenn Jasch ist gekommen, c'est-à-dire quand Jasch est parti et quand il est arrivé, indiquent ce mouvement effectivement spatial. Donc la spatialité est au centre du titre même. Elle est incluse également dans le mouvement du bateau qui définit aussi pour Gladstein la notion d'identité. La dynamique de la vie aux yeux de Gladstein, c'est une dynamique de mobilité, donc qui résiste à l'enfermement, bien que malgré tout, en 38, il écrira un poème qui s'intitule « À Gute Nacht Welt », c'est-à-dire « Adieu monde » pour dire qu'il revient au ghetto, hein, comme si effectivement cette ouverture vers le monde, le vaste monde, se renonçait elle-même au moment où la menace se fait plus précise. On a remarqué également chez Gladstein la récurrence de l'alliance de rimes en yiddish entre « Herter », les lieux, et « Werter », les mots. Comme si, effectivement, on passait, de façon presque imperceptible, souvent par la poésie elle-même, de l'espace aux mots, c'est-à-dire à la musique et d'une certaine façon à la temporalité. Donc c'est tout ce jeu de réunion des contradictions qui caractérise l'entreprise poétique de Gladstein, qui veut d'une certaine façon rendre de façon symphonique, musicale et en même temps kaléidoscopique, avec les mille nuances de l'expérience moderne, rendre compte des contradictions de la vie juive, de la vie humaine en général, mais de la vie juive dans l'histoire aussi en particulier.
Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By me, bis to shame, please let me explain. By me, bis to shame, means you're grand. By me, bis to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven der bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, I'm mere bis to shame. So kiss me and say you understand.
La musique a un rôle très important dans ce roman. Il commence avec de la musique et se termine presque avec de la musique. mais ce n'est plus la même. On passe de la musique savante à la musique populaire, à la musique de variété, comme pour sortir d'un temps figé, répétitif, ancien et mort, un temps trop sage qui a besoin de se réveiller, de danser, d'exulter, de se laisser à la joie des corps. Là, nous venons d'entendre « By Mir Bist Du Schön » de Jakob Jacobs et de Sholem Sekunda. Et c'est l'un des grands succès du jazz yiddish des années 30 qui a contribué au succès mondial des Andrew Sisters que nous sommes en train d'entendre. Et cela souligne à merveille l'entre-deux mondes du vieux et du nouveau continent dans lequel se mouvaient ces juifs qui partaient pour revenir à rebours avant la grande catastrophe qui survint quelques années plus tard. Nous allons y revenir. Mais d'abord, quel est le rôle de la musique dans ce roman, dans l'œuvre de Gladstein en général et des écrivains yiddish de cette période? Quelle musique chante dans ce yiddish du début du XXe siècle, Carole Xianisser?
Alors dans le roman, effectivement, la notion de composition musicale est importante parce qu'il y a une sorte de loi du glissement, d'arbitraire aussi des associations. C'est-à-dire que souvent, c'est un mot, une image, un épisode qui va faire surgir le souvenir par le biais de l'association freudienne. Le freudisme est intégré très clairement par l'école des Inzeristen. Mais lorsqu'il évoque la musique, alors il l'évoque de façon très satirique à travers le personnage d'un pianiste qui est poursuivi par des femmes hystériques, à travers les accents, à travers le loisir lié au transatlantique. On a parfois l'impression qu'il y a une influence américaine globale qui serait aussi celle d'un certain cinéma contemporain. On pense à la vision des femmes chez un Cukor, par exemple. Mais plus précisément, l'association de prédilection, le narrateur commence par dire qu'il s'est gré à l'orchestre du bord de ne pas avoir joué du jazz et d'avoir joué plutôt une mélodie triste. C'était traditionnel. Lors du départ des émigrants, tout le monde pleurait. Et le départ était associé à un désespoir, un sens de la coupure absolue. Et donc, il s'est gré finalement à ce jeune orchestre d'étudiants américains d'avoir joué une mélodie triste, contrairement à ce que lui demandaient les autres passagers. Et il dit que finalement, il est content de ne pas avoir entendu de jazz. Mais il y a d'autres occurrences où il y a l'orchestre du bord qui joue un certain nombre de chansons du répertoire classique, Chopin en particulier, joué par le pianiste, etc. Mais ce qu'il y a de plus personnel pour Gladstein, c'est la résurgence des mélodies de la mer ou des tailleurs, des cordonniers de sa famille de Lublin. Et c'était toujours les mélodies de Goldfaden, qui est le créateur du théâtre yiddish. Donc des mélodies liées à la ritournelle, au refrain, à des histoires d'amour sentimental qui finissent souvent mal, au départ pour la conscription des jeunes juifs enrôlés dans l'armée du tsar. Et c'est ça qui progressivement va revenir à la mémoire sur cette île qu'est le bateau.
Il y a aussi une réminiscence des mélodies religieuses, avec notamment, il évoque la prière du Lechadoïdi, qui ouvre l'office du vendredi soir, l'accueil du Shabbat, qui est très fort chez lui aussi.
Oui, le son du chauffard, effectivement.
Alors c'est intéressant que vous ayez cité Goldfaden, parce que ça fait une intertextualité avec Kafka, qui le cite beaucoup dans son journal pour l'avoir vu jouer à Prague par la troupe yiddish de son ami Yitzhak Levi. Alors il y a aussi, vous avez cité le cinéma. Effectivement, on pense en lisant ce livre à Charlie Chaplin et à son film Le Dictateur, qui lui aussi, Chaplin, a compris dès 1934, exactement à la même époque que Gladstein écrit son livre, il a compris presque tout ce qui allait se passer, et que pour déjouer la comédie macabre et la folie meurtrière qu'Hitler était en train de mettre en place, il fallait inventer une comédie, une fiction encore plus grande. Ainsi, les critiques ont souvent parlé à propos de Gladstein de dimension prophétique dans son œuvre qui précède la tragédie. Son retour en Pologne, raconté dans ce livre, Voyage à rebours, montre l'étendue de l'horreur en marche, et il décide à ce moment-là de devenir, dès ce moment, on a l'impression, l'écrivain en état d'alerte pour son peuple. Gilles Rosier.
Alors il faut aussi dire, bon, ce livre a été écrit un petit peu plus tard que 34, mais il faut aussi dire que le milieu des années 30, c'est la radicalisation de la société polonaise, où il y a des boycotts de commerçants juifs qui sont organisés par les mouvements, les partis polonais d'extrême droite, et de médecins juifs qui n'ont plus de clients non-juifs, etc. Enfin, il y a des... Déjà en Pologne, les juifs se sentent dans l'entonnoir, c'est pas seulement dans l'Allemagne nazie. Donc cette préscience, elle est aussi appuyée sur des faits qui ont lieu à partir du milieu des années 30.
C'est aussi la tradition journalistique qui fait que dans la presse yiddish, on peut lire des nouvelles qui émanent du monde entier, y compris de l'Union soviétique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'intérêt pour l'Union soviétique dans ce récit. Et donc, les écrivains, les journalistes yiddish sont au courant de beaucoup plus de choses que, par exemple, en Pologne ou en Russie, où règnent des phénomènes de censure. Donc c'est une prescience qui est fondée sur l'expérience, puisqu'il se déplace lui-même et il dit « Quand j'étais à New York, les discours anti-nazis, antifascistes, dans les grands lieux de réunion syndicale me semblaient irréels, mais là, dans le train, soumis à l'irruption d'une horde de jeunes hitlériens qui font le salut nazi de façon quasi rituelle, il se rend compte d'une réalité objective. » Donc là, il y a vraiment une démarche de reporter, je dirais.
Alors il y a dans ce voyage à rebours, je l'ai évoqué dès le début, une question de temporalité, le temps comme matière première de l'écrivain. C'est une thématique que vous avez beaucoup explorée, Carole Ksenisser, beaucoup explorée chez les auteurs yiddish, et vous utilisez cette belle expression de la pliure du temps. Que signifie-t-elle de manière générale et dans l'œuvre de Gladstein en particulier?
Oui, alors les plis du temps, effectivement, ça me paraît très justement caractérisé. Je n'y avais pas pensé au départ, mais vous m'y faites penser en utilisant cette expression. La façon dont le livre est organisé, on a une impression éventuellement d'arbitraire dans les glissements, dans les associations. Mais si on pense aux plis, pli d'un tissu. Le père de Gladstein était schmatologue. Il avait un commerce de vêtements à Lublin. Dans le livre, on rappelle, le jeune homme se souvient des serrures lorsque le père referme le magasin. Et donc, il y a toute une série d'impressions sonores, visuelles, tactiles qui sont conservées dans la mémoire, qui ont certainement été enfouies et qui ressurgissent à la faveur du voyage et du déplacement dans l'espace. Donc, ce pli du temps, c'est ce qui permet à la fois de nouer une continuité, de renouer des fils. Par exemple, il dit « Jusqu'alors, la maison de mon enfance, ma famille appartenait au passé. Mais à partir du moment où je suis dans le train, c'est le futur qui se dresse devant moi comme une sorte de menace, d'urgence, de sentiment d'urgence absolue, arrivé avant que sa mère ne meure. Et donc ce futur qui hérisse ses dangers, mais en même temps le désir de retrouver les parents, la famille, c'est quelque chose qui a à voir avec le kairos. Donc on a l'impression que le traitement de la temporalité est à la fois understatement, ça c'est très caractéristique de Gladstein, parfois ironique, mais dans les profondeurs, il utilise la métaphore des profondeurs du puits, hein, dans les profondeurs, tout est conservé, tout est intact, et tout ne demande qu'à surgir par le biais des associations poétiques de mots.
Gladstein est devenu littéralement un prophète au sens biblique du terme, une personne dont la voix ose s'élever vers Dieu, contre Dieu.
Les liens entre Gladstein et Dieu sont anciens. Il a reçu une éducation traditionnelle. Il connaît bien sûr la Bible par cœur et certainement une partie du Talmud. Il est sans doute en partie agnostique. Il a écrit des poèmes à Brahma, à Lao Tse, donc il a une vaste culture cosmopolite. Mais il n'a jamais renoncé au Dieu de son incroyance, dit-il dans un de ses poèmes. Il a toujours considéré Dieu comme faisant partie intégrante de son imaginaire juif, de sa personnalité, de son point intime d'identité. Et donc lorsqu'il écrit après la Shoah des poèmes où intervient la figure divine, c'est une façon de marquer une forme de continuité mémorielle où le Hurban jouerait le rôle du temple d'une certaine façon et où il retrouve aussi, en tant que doté de la honte du survivant, de celui qui n'a pas pu mourir avec sa famille. Il faut noter que le père père, le frère, la belle-sœur et les neveux Ignace de Gladstein ont été donc engloutis dans l'extermination. Donc lui, en tant que témoin lointain, survivant, doté de cette honte du survivant, il va s'identifier à ce petit garçon à la tête ramifiée, nous dit la traduction de Rachel Hertel. Donc ce petit garçon, on le retrouve aussi dans l'autobiographie, dans le texte Voyage à rebours. C'est la figure de celui qu'il a été lui aussi, c'est-à-dire un petit garçon pieux sur les lèvres duquel courait sans cesse la parole juive.
Quels sont les héritiers de Gladstein? Bien sûr, il écrit en yiddish, mais on a l'impression que beaucoup d'auteurs américains, enfin, on peut penser à Philip Roth, par exemple.
C'est ce que j'allais dire aussi. Toute la culture juive américaine moderne, qui se nourrit de la tradition et qui manie l'ironie. Mais il y a quelque chose de post-moderne chez Gladstein, de très raffiné, de très urbain, qui le renvoie effectivement à quelqu'un comme Philip Roth ou à Don DeLillo, par exemple, Mendelssohn, des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui manient des codes culturels extrêmement hétérogènes, mais qui sont formés en tant que juif.
Alors ça, c'est vraiment le fruit de la société américaine. C'est pas parce que ces auteurs ont lu Gladstein, parce que ce texte-là, Voyage à rebours, a été publié en anglais il y a une dizaine d'années, hein, pas plus que ça. Mais effectivement, la société américaine a cette capacité de créer des individus à la fois très américains et très juifs, comme pouvait l'être Philip Roth, qui refusait de dire qu'il était un écrivain juif, par exemple. Et c'est tout à fait singulier à l'Amérique.
Merci Carole Xianisser Materon, merci Gilles Rosier pour ce voyage à rebours dans les pliures du temps, merci pour ces belles découvertes que nous offrent les éditions de l'Antilope. Je rappelle le titre du roman de Jacob Gladstein dont nous avons parlé aujourd'hui, Voyage à rebours, magnifiquement traduit par Rachel Hertel. Merci encore.
Merci.
Merci
Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Alison Ascrizzi, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Au nom de toute l'équipe de Talmudique, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle année 2023. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.